À Rencontre spirituelle en ce 3 septembre, c'est la fête de Saint Grégoire le Grand qui était célébrée autrefois au mois de mars, et maintenant c'est le 3 septembre. C'est un très grand pape et on lui doit, dit-on, la classification des chants de l'Église, les chants, ou le plein chant, que l'on appelle aujourd'hui le chant grégorien en son honneur. Mais ce n'est pas que ça, Grégoire le Grand. C'est un immense pape. Vous verrez quand je vous raconterai sa vie. C'est une vie passionnante, une vie extraordinaire. Il est mort en l'an 604. Et on s'aperçoit que déjà à cette époque, dans l'Église, comme d'ailleurs au siècle précédent, il y a eu des hommes, des femmes, de très grande envergure, avec une foi si profonde qu'on reste pantois aujourd'hui devant ces géants. C'est aussi la fête aujourd'hui, selon certains, de Sainte Rose de Viterbe, qui est aussi fêtée le 4 septembre. Il y a aussi Siméon, le stylite, le jeune, un de ces saints étranges qui vivaient sur des colonnes, n'est-ce pas? Il est mort, lui, en Syrie, en 592. Il y a aussi la fête d'un Saint Vendry aujourd'hui, en Belgique. Saint Vendry, qui est le patron de ce monastère en Normandie, monastère de Bénédictins, qui ont envoyé des moines ici au début des années 1910 pour fonder Saint-Benoît-du-Lac, dont vous entendez si souvent les magnifiques chants, car ils ont là c'est pas une chorale, mais enfin un groupe de moines parmi les meilleurs au monde pour ce qui est du chant grégorien. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Au sujet de Saint Grégoire le Grand, on a écrit dès 775 un diacre qui a écrit ça, qui était moine du Mont Cassin, où je suis allé il y a quelques semaines au Mont Cassin. C'était tout reconstruit après la destruction durant la guerre, reconstruit par les Italiens. Je croyais que c'était les Américains qui avaient payé ça, mais d'après les documents qu'on m'a donnés, ce sont les Italiens qui ont reconstruit le monastère du Mont Cassin. Ce n'est pas tellement loin de Rome, hein, c'est à voir, quelque chose d'extraordinaire. Donc ce moine Paul, qui était diacre Wannerfried, vers 775, a écrit la vie du bienheureux Grégoire. Je vous lis un passage qui est extrêmement intéressant. Vous retrouverez ça dans la vie des saints, cette immense collection luxueuse publiée chez Hachette. Il écrit: le plus étonnant, c'est que le pape Grégoire ait pu composer tant d'ouvrages importants. Lui qui, pendant presque toute sa jeunesse, souffrait, selon ses propres termes, de fréquentes douleurs d'entrailles. On dirait aujourd'hui qu'il avait mal au ventre. Il était accablé à toute heure, à tout moment, par son estomac détraqué. Il était oppressé par une fièvre lente, sans doute, mais continuelle. Grégoire était affligé de plus de douleurs fréquentes et violentes de la goutte. La goutte, c'est ce mal qui s'attaque aux jambes et qui fait que bien des gens sont incapables de marcher, et ça les fait souffrir terriblement. Le diacre en question qui a écrit cette vie de Grégoire continue en disant: il était harcelé en outre par le continuel souci d'organiser les tours de garde pour empêcher l'ennemi de prendre la ville de Rome. Parce qu'à cette époque, Rome était menacée constamment par des envahisseurs, qu'on appelait des barbares, c'est-à-dire au fond des étrangers. C'est ça que ça veut dire, barbare. Je continue la lecture de ce texte. De plus, ce qui ne cessait de le ronger, c'était l'annonce des dangers que couraient ici et là ses enfants. Ses enfants, ses fidèles, il était comme un père, hein? l'appelle d'ailleurs le pape le Saint-Père. C'est très beau, au fond. Pourtant, ça me chicote toujours, parce que dans l'Évangile, il est bien dit de ne pas se faire appeler Père. Enfin. Le texte continue. « Cependant, jamais Grégoire ne s'accordait de repos sans s'être dévoué à la nécessité de ses enfants, sans composer quelque écrit digne de l'Église, ou sans entrer, par la grâce de la contemplation, en participation des mystères célestes. » Car vous vous dites que c'est un moine bénédictin, un des premiers. Il a lui-même écrit la vie de Saint Benoît. Enfin, comme de presque toutes les régions de l'Italie, une foule de gens, redoutant les glaives des Lombards, c'étaient les envahisseurs, les Lombards, qui venaient de Lombardie, qui est en Italie aujourd'hui, affluaient vers la ville de Rome. Ils s'ingéniaient à prendre soin de tout le monde et dispensaient à tous avec l'aliment de la prédication, des secours matériels, car il était complètement dominé. Écoutez bien ça pour un grand pape, un grand intellectuel, vous verrez. Hein? Car il était complètement dominé par l'amour miséricordieux, au point non seulement d'aller au-devant du dénuement de ceux qu'il avait près de lui, mais bien plus, d'accorder une assistance libérale à ceux qui se trouvaient au loin, au point même d'envoyer tout ce qui pouvait être utile aux serviteurs de Dieu établis au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, vous savez, c'est en Israël aujourd'hui, ça. Dans le désert du Sinaï, il y avait des moines, là. Il y a encore des moines aujourd'hui au monastère de Sainte-Catherine. Un autre endroit visité, fantastique. Et le texte continue, c'est tellement une apologie magnifique qui date de plus de 1000 ans, hein. Et c'est très beau. À la vérité, d'autres papes se souciaient de construire des églises et de les orner d'or et d'argent. Lui, il trouvait le moyen de ne pas les négliger, et en même temps, comme s'il les eût perdus de vue, il s'occupait tout entier à gagner des âmes. Et tout l'argent qu'il pouvait avoir, il avait le souci de le répandre avec empressement et de le donner aux pauvres. De sorte qu'il pouvait dire, en vérité, ces mots du bienheureux Job, « La bénédiction du mourant venait sur moi, et le cœur de la veuve, je l'ai réconforté. J'ai revêtu la justice et m'en suis couvert comme d'un vêtement. Et j'ai fait de mon équité un diadème. J'ai été l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. » Écoutez bien, ça c'est beau, c'est dans Job, toujours, au chapitre 29. « J'étais le père des pauvres. » Ça s'applique tellement bien à un tel pape. Un peu plus loin, « Ai-je mangé seul mon morceau de pain ?» Toujours dans Job, hein. « Ai-je mangé seul mon morceau de pain tandis que l'orphelin n'en mangeait pas ?» Dès mon enfance, en effet, a grandi avec moi la pitié, et du sein de ma mère, elle est sortie avec moi. Que c'est beau, hein, ce Job. Du sein de ma mère, la pitié est sortie avec moi. Sa pitié pour les pauvres venait donc de sa mère, qui l'engendrait avec ce don. Avoir pitié des pauvres. C'est donc dans la vie du bienheureux Grégoire, du diacre Warnefried, moine du Mont Cassin. C'est une synthèse admirable des traits profonds de la sainteté de Saint Grégoire le Grand. Toutes sortes d'actions caritatives, vues au ravitaillement des populations par exemple, des actions administratives, des actions diplomatiques, et même militaires quand c'était nécessaire, parce qu'il fallait défendre des populations contre des gens qui voulaient les tuer. Mais aussi dans cette vie, on voit les formes les plus élevées de la prière liturgique et contemplative de Saint Grégoire le Grand. Et les sommets de sa pensée, de sa doctrine, ainsi que de sa mystique, car c'était non seulement un grand administrateur, mais un mystique. La date de la naissance de Grégoire est ignorée. On ne trouve aucun document pour nous dire quand il est né. Ne nous surprenons pas, parce que même encore aujourd'hui, vous savez, dans bien des régions du monde, on ne sait pas quand sont nés des gens qui deviennent très illustres. Même aujourd'hui, en Afrique et dans d'autres régions, on ne sait pas. Je me souviens de rencontrer au Cameroun des jeunes gens qui ne savaient pas trop s'ils avaient 22 ou 23 ans. Ils n'étaient pas sûrs. Ça nous semble invraisemblable. Mais les historiens s'accordent à situer la naissance de Saint Grégoire vers l'an 540. C'est l'année qui est convenue de réclamer comme étant l'année de la naissance de la vie bénédictine, sous la règle de Saint Benoît. Il est probablement né avant 540, car il est devenu pape le 3 septembre 590. C'est pourquoi aujourd'hui on fête Saint Grégoire le Grand le 3 septembre, parce que autrefois il était fêté le 12 mars et c'était en plein carême et on ne pouvait jamais vraiment l'honorer. Lui qui est si grand, vous verrez. C'est aussi l'année de son ordination, c'est la date de son ordination sacerdotale, c'est le 3 septembre. L'âge de 50 ans était à l'époque considéré comme tout à fait convenable pour devenir le pasteur de toutes les âmes chrétiennes. Grégoire était le fils d'une femme du nom de Sylvia, ou Sylvie si vous voulez. Mais il était le fils d'un sénateur qui s'appelait Gordien. Et écoutez bien ça, c'est un homme qui, dans la vie civile, a eu des responsabilités énormes. Son père, lui, exerçait probablement les fonctions dans le monde de notaire. Un notaire d'une certaine région. On appelle ça un notaire régionnaire. Il était issu, si on en est sûr, de la noblesse sénatoriale de Rome. Deux de ses ancêtres, d'ailleurs, étaient devenus papes. C'était donc une vieille famille catholique, vous direz, des ancêtres qui sont devenus papes. Bien oui, les papes étaient mariés, les papes avaient des enfants. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Bon, le pape Agapète Ier, qui a régné de 535 à 536, bon, deux ans ou un an, était marié, avait des enfants. Et Félix III, qui était l'arrière-grand-père de Gordien, le père du pape Grégoire, lui a régné de 483 à 492. Il avait trois tantes du côté de son père qui menaient toute la vie monastique. C'était des moniales qui vivaient dans la vaste maison familiale car ils étaient extrêmement riches. Cette maison que l'on appelle le Clivus Scori. C'était une coutume à l'époque. Les familles riches consacraient leur immense maison, à un moment donné, à la vie monastique, ça arrivait souvent, où on en faisait des églises. Autour donc de ce havre de paix, bien, l'Italie puis le reste de l'Empire offraient plutôt l'image du chaos. C'était le fracas des armes. Et Rome était envahie. Elle était prise par les Goths, puis reprise par les Byzantins en 550. 546 d'une part, 550 d'autre part. Puis là, il y avait des atrocités, de la famine. C'était comme ça que Grégoire est apparu sur cette toile de fond, ses premières années de vie. Et 14 ans de paix ont suivi, jusqu'en 568. Ça suffisait à réparer les désastres. Mais ensuite, il y a eu les Lombards qui étaient bien redoutables, que l'empereur Justinien avait chargé dès 540, l'année de la naissance présumée là, de Grégoire, que Justinien avait chargé d'extirper d'Italie les Ostrogoths. Puis ils se sont établis solidement à Milan, puis etc. Alors, c'était complètement à l'envers. Et cette présence lombarde était répandue dans toute l'Italie, à l'exception des territoires qui correspondent un peu, à peu près, là, aux futurs grands états de l'Église, parce que l'Église avait des grands états jusqu'en 1870. Puis, ça va déterminer, là, par son morcellement, pour des siècles, la carte politique de toute la péninsule d'Italie, puis des îles. Et l'Empire byzantin, qui régnait sur une partie de tout ça, a dû lutter sans trêve, hein, pour ne pas être réduit en Italie à une espèce de petit rien du tout. Alors, tout ça était dans le trouble le plus complet, et nous allons voir tout à l'heure comment ce pape, cet homme dans le monde, a réussi à lutter contre tout ça, même quand il est devenu pape. Formation intellectuelle de Grégoire le Grand, futur Saint Grégoire le Grand, la trempe de son caractère, l'ont préparé à jouer un rôle très actif dans toute cette situation, qui était très très critique. Car de par son origine, il s'était habitué à une vie de discipline en étudiant les lettres classiques, les lettres latines évidemment, mais peut-être même les lettres grecques, comme on faisait dans nos collèges classiques il n'y a pas si longtemps. Et contrairement à l'opinion répandue jusqu'à ce jour chez les historiens, on fait des études qui ont permis d'arriver à la conclusion que Saint Grégoire avait une bonne connaissance du grec finalement. Comme tout homme cultivé de nos jours pratique une autre langue, ici, quand ces gens savent l'anglais, mais j'en connais beaucoup qui ont même appris l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien, etc. Et sa carrière à Grégoire, sa carrière de haut fonctionnaire impérial, a culminé quand il a obtenu la charge de préfet de Rome. Il est devenu préfet de Rome avant de devenir prêtre. Il était donc le premier personnage de la ville de Rome quand il était dans le monde. Alors la date limite de son entrée en fonction peut-être fixé avec précision là, au 22 janvier 573, et c'était au commencement de l'épiscopat de Laurent II de Milan, dont il a consigné en qualité de préfet une lettre de fidélité au siège apostolique du pape à Rome, à l'occasion de l'affaire là, du schisme istrien. On reviendra là-dessus. Il a acquis à ce poste donc de préfet de Rome une connaissance des problèmes humains, des problèmes politiques, des problèmes économiques. Puis déjà, il connaissait les rapports entre l'Église de Rome, l'Église catholique, la Respublica, la République, et la personne de l'empereur. Tout en témoignant d'une charité active, active à l'égard des détresses physiques et morales. Jamais ses grandes responsabilités l'ont empêché de s'occuper des pauvres, des gens plongés dans des détresses épouvantables. Mais, comme il l'a écrit plus tard, faisant un retour sur son passé, il écrit « La sollicitude du monde, peu à peu, a fait grandir mille soucis contraires à mon bien, au point de me retenir non plus seulement par l'apparence, mais ce qui était plus grave, par l'âme. À la mort de son père, Saint Grégoire entre en possession de vastes domaines, car il vient d'une famille très riche. Il fonde 6 monastères sur ses terres de Sicile et fait de sa demeure familiale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Clivoscori, sur le mont Cilius, c'est un des quartiers les plus aristocratiques de Rome, mais il fonde un monastère qu'il place sous le patronage de Saint André. Et vers 575, il y entre lui-même comme simple moine. Il se fait donc moine bénédictin. Il se soumet à l'autorité de l'abbé. Il écrit, ayant abandonné pour toujours, je le croyais du moins, les soucis du monde, n'eus-je m'échappé du naufrage de la vie. Mais c'est pas ce qui va lui arriver. Le pape Benoît Ier, qui est mort en 579, était très attentif à la valeur de ce moine Grégoire. Il n'a pas tardé à l'arracher à sa vie de prière du monastère, sa vie de contemplation et d'études, pour l'appeler au diaconat. Parce que souvent, les moines, n'est-ce pas, n'étaient ni diacres ni prêtres dans ce temps-là. C'était ce qu'on appelle des frères. Ils étaient appelés au monastère pour chanter la gloire de Dieu, vivre ensemble, et non pas pour être prêtres. Alors, il lui a confié les fonctions d'administrateur d'une certaine région, et vers ce moment-là, commence le pontificat du pape Pélage II, qui va mourir en 590. Et c'est là que Grégoire va être obligé de lui succéder. Car ce pape, peu après son avènement, a délégué Grégoire, Saint Grégoire, comme nonce à la cour impériale de Constantinople, qui était le centre de l'Empire. Le cœur, c'est en Turquie aujourd'hui, c'est le cœur de toute l'Église catholique d'Orient, ou l'Église catholique orthodoxe, ou l'Église orthodoxe catholique, si vous voulez, puisque nos deux grandes églises étaient unies dans une seule église sous la juridiction du pape de Rome. Alors Grégoire ne renonce pas pour autant à la vie monastique. Pas parce qu'il est pape qu'il veut cesser d'être moine. Alors, il se fait accompagner par plusieurs moines de Saint-André, son monastère. Et à Constantinople, il se rend, il observe, il démêle les intrigues de cour, dans un milieu qui est plutôt rompu à la ruse, puis à la dissimulation à cette époque-là. Il y avait un moment de décadence, comme on en a eu, nous, à Rome. Mais il noue des amitiés durables, non seulement avec le futur évêque de Séville, Léandre, Saint-Léandre, qui était le frère de Saint-Isidore, et qui représentant à Constantinople de la monarchie wisigothique d'Espagne, mais aussi avec des proches de l'empereur. Comme plus tard, dans ses lettres, il les soutient dans leur vie chrétienne, il leur rappelle l'obligation du recueillement, de la prière, de l'apostolat, du progrès spirituel. Tandis qu'avec Léandre, là, qui est devenu pour lui comme un frère, il a des conversations très très fructueuses. Et rappelé à Rome, en 585 ou 86, Grégoire redevient simplement moine, tout en jouissant comme fondateur, puis dignitaire aussi, d'une certaine autorité. En 589, là on approche de son élection en 590, il y a des calamités qui s'abattent sur Rome. Le Tibre sort, le fleuve le sort de son lit, ici, il y a des inondations qui noient les greniers à blé. Ça prive de ce fait la ville de Rome d'une part importante de son ravitaillement. Une famine, une épidémie de peste inguinale, dont meurt justement en 590, le 7 février, le pape Pélage II. Alors là, le diacre Grégoire, notre futur pape, est acclamé comme pape par le peuple et le clergé. Il commence par refuser. Il cherche à se dérober devant une charge, à ses yeux, insupportable. Il veut pas. Il supplie. En vain, l'empereur de ne pas confirmer cette élection. Il reproche plus tard à la sœur de l'empereur, Théotiste, puis au patriarche Jean de Constantinople, de ne pas s'être opposé à son élévation. Alors, pape nommé, non encore consacré, il se dépense à organiser les secours, à cause d'inondations, d'épidémies, puis les fameuses processions litaniques qu'il fait, qui ont duré 3 jours. Au terme de ces fameuses processions qu'il a fait dans Rome, au terme desquels, selon une légende plutôt tardive qui vient au IXe siècle, l'archange Saint-Michel serait apparu au sommet du mol d'Adrien, là, le château Saint-Ange. C'est pour ça que ça s'appelle le château Saint-Ange, en l'honneur de Saint-Michel. Et l'ange Michel serait apparu remettant au fourreau son glaive exterminateur. N'est-ce pas? Ce sont des légendes. C'est de là que vient le nom du château Saint-Ange, le château qui recouvert, qui est dominé par une statue de Saint-Michel-Archange. Et je poursuis en m'inspirant d'un texte d'Ernest Hello dans Physionomie de Saint. C'était été publié à Montréal, ça, aux éditions Variété, qui étaient dirigées par Dussault et Pelladeau. C'était, une vraie adresse, c'était au 14-10 cette année, je me souviens d'avoir travaillé là pour Radio-Canada. Vous savez que Radio-Canada, autrefois, avait 27 édifices différents à Montréal avant de construire leur grande tour dans l'est de la ville. C'était publié en 1945. C'est très intéressant ce qu'il écrit, Ernest Hello, sur la procession dont je vous ai parlé tout à l'heure à Rome, qu'avait organisée Saint Grégoire le Grand. Il écrit à un moment donné, pendant la peste qui désola Rome, il fit faire, pendant 3 jours, une procession générale où parurent, pour la première fois, tous les abbés de monastères, avec tous leurs moines, toutes les abbesses, avec toutes leurs religieuses. L'image de la Sainte Vierge fut portée en cette solennité. Et l'on raconte que sur son passage, l'air corrompu s'écartait pour lui faire place. Et que sur le sommet du mausolée de l'empereur Adrien, Saint Grégoire aperçut un ange qui remettait son épée dans le fourreau. C'est à l'image de cet ange debout sur les monuments que se rattache le nom que ce monument porte encore aujourd'hui. C'est le château Saint-Ange. Je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Cependant, Grégoire était menacé à ce moment-là de devenir pape, comme vous savez. Et pour échapper au péril, savez-vous qu'il s'était déguisé pour s'enfuir? Mais il était enlevé d'une caverne, dit-on, où il s'était caché. Il avait été ramené à Rome, puis avait été couronné le 3 septembre 590. Il avait reçu des lettres de félicitations qui lui arrivaient de tous côtés, mais on dit qu'il en pleurait. Il écrivait à la sœur de l'empereur, « J'ai perdu tous les charmes du repos. Je parais monté au dehors, je suis tombé au dedans. Et d'ailleurs, je suis tellement accablé de douleur que je puis à peine parler. De quelle région tranquille je suis tombé ? Et dans quel abîme d'embarras. » Vous savez, on a ces lettres-là, elles sont conservées. Hein? Il écrivait à un de ses amis, qui s'appelait André, « C'est assez beau ce qu'il écrit. Pleurez si vous m'aimez, car il y a tant ici d'occupations temporelles que je me trouve par cette dignité presque séparé de l'amour de Dieu. » Il disait, d'autre part, au diacre Pierre, « Mon chagrin est toujours vieux par sa durée et toujours nouveau par sa croissance. Ma pauvre âme se rappelle ce qu'elle était autrefois au monastère, planant sur tout ce qui se passe et sur tout ce qui change. Quand elle franchissait la prison du corps par la contemplation, mais maintenant, je supporte les 1000 affaires des hommes du siècle. Je suis souillé dans cette poussière. Et quand je veux retrouver ma retraite intérieure, j'y reviens amoindri. » Ces lettres de ce pape Grégoire le Grand peuvent nous faire comprendre le désarroi des hommes que nous élisons comme pape. Pensons à Jean-Paul II. Il a beau être, on peut dire, couronné par, mettons, le magazine Time comme Man of the Year ou l'homme de l'année. On dit de lui qu'il est peut-être le seul homme sur cette terre à se tenir vraiment debout pour défendre les vraies valeurs. C'est ce qu'on dit dans Time Magazine. Mais quel souci! Quel labeur! Hein? Quel poids sur les épaules de ces hommes!
À l'époque de Saint Grégoire, il y avait en Afrique une secte, un schisme, le donatisme. En Espagne, il y avait l'arianisme. En Angleterre, l'idolâtrie. En Gaule, ou en France, Frédégonde et Brunehaut faisaient des siennes. En Italie, les Lombards. En Orient, il y avait l'arrogance de certains patriarches de Constantinople. Je m'excuse auprès des orthodoxes, mais les patriarches sont devenus un peu arrogants. Il faut dire aussi que peut-être avaient-ils des reproches valables à faire à l'administration de Rome. La sollicitude donc de Saint Grégoire s'est étendue partout dans toutes ces régions-là. C'était large, c'était profond comme l'océan, sa sollicitude. Elle allait d'un bout du monde à l'autre. Et Saint Grégoire essayait de soigner toutes les plaies de l'Église, comme le pape actuel. Et les pauvres du monde entier étaient l'objet direct de ses soins. D'une façon très concrète, il les recevait à sa table. Il dînait entouré de mendiants. Oui, c'est historique. Un jour qu'il allait lui-même chercher pour l'un de ses mendiants ce qu'il faut pour se laver, pendant qu'il préparait le bassin, le pauvre est disparu, dit-on, et dans la nuit suivante, eh bien, Jésus-Christ est apparu à son vicaire. Ma pape, il lui a dit, « Vous me recevez ordinairement en mes membres, mais hier, c'est moi-même que vous avez reçu. » Mais c'est dans l'Évangile, hein? Puisque vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il ne faut jamais oublier ça. Saint Grégoire le Grand, c'est lui qui a inauguré, pour signer ses lettres, la belle formule « Serviteur des serviteurs de Dieu ». C'est le plus beau titre du pape. C'est pas de l'appeler le souverain pontife. Ça me gêne un peu, ces titres-là. C'est si beau, serviteur des serviteurs de Dieu. Quand je lis ça, je vois toujours la scène où Jésus est à genoux devant ses apôtres, leur lave les pieds. Dieu lui-même à genoux devant ses apôtres, leur lavant les pieds. Et pendant qu'il était moine, la mère Sylvia, la mère de Saint Grégoire, lui envoyait chaque jour pour sa nourriture des légumes dans une écuelle d'argent. Il y a une très jolie histoire à ce sujet. Il est arrivé un jour un pauvre marchand qui disait avoir fait naufrage, qu'il avait tout perdu, sa marchandise. Il demandait secours, alors Saint Grégoire lui donne 6 pièces d'argent, puis, devant l'insistance un peu, 6 autres... Puis après bien des dons, bien le pauvre se présente toujours. Alors Saint Grégoire donne l'écuelle d'argent qu'il avait reçue de sa mère. C'était le dernier débris de toute son ancienne argenterie qu'il avait héritée de sa grande famille riche. Et bien des années se sont passées et Saint Grégoire était devenu pape. Alors il disait, invitez toujours 12 pauvres à ma table, avait-il dit à son intendant. Il entre dans la salle à manger. Au lieu de 12 pauvres, 12 pauvres, il en voit 13. Alors il demande à l'intendant, « Mais comment se fait-il? Pourquoi 13? » Très Saint-Père, il n'y en a que 12. Mais Saint Grégoire en voyait 13, lui. Et l'un d'entre eux changeait de visage pendant le repas. Il me dit, « Votre nom? » lui dit Grégoire. « Je vous supplie de me dire votre nom. » « Pourquoi me demandez-vous mon nom, qui est admirable ?» répond le pauvre. « Je suis ce marchand à qui vous avez donné l'écuelle de votre mère. Et pour cette écuelle d'argent que vous m'avez donnée, Dieu vous a donné le trône et la chair de Saint-Pierre, et je suis l'ange que Dieu avait envoyé vers vous pour éprouver votre miséricorde. » On n'est pas obligé de croire à ça. Mais il y a une leçon à tirer de ça. C'est que Dieu nous envoie constamment des gens, des événements, ou des maladies. Nous envoie-t-il vraiment des maladies entre lesquelles il les laisse intervenir? Mais les choses surviennent dans nos vies. Les gens surviennent pour éprouver notre charité, notre miséricorde, notre don de nous-mêmes. Car quand on se donne, Dieu prend la place en nous de notre petit moi imbécile. Et c'est le chemin de la sainteté. À travers les œuvres fantastiques que Saint Grégoire le Grand fait, toutes sortes de prodiges de sa vie active, il ne cessait de lire chaque jour la Bible, l'Écriture sainte, et de pratiquer comme moine de grands moments de vie contemplative. Il y avait chez lui une façon d'interpréter l'Écriture sainte qui était très belle. On a les textes. Il s'occupait du sens historique, évidemment, mais il aimait beaucoup le sens symbolique de l'Écriture sainte, de la Bible. Il le faisait avec une grande profondeur, une audace qui était vraiment extraordinaire. On peut traduire, citer quelques passages de son interprétation relative au livre de Job puis à Ézéchiel. Voici son texte. « Est-ce toi qui lèves à ton heure l'étoile du matin et qui fais venir le soir sur les fils de la terre? Est-ce à toi que sont ouvertes les portes de la mort? Est-ce toi qui as vu les entrées ténébreuses? Est-ce toi qui as donné tes ordres à la première lueur du jour et qui as dit à l'aurore, voici ta place? Qui donc peut ces choses sinon le Seigneur? » Alors, on voit comme bien devant la nature, devant la création, devant ce monde dans lequel nous sommes plongés, nous, tout petits sur cette planète, il voit que c'est Dieu qui a fait ça. Et il ajoute, et cependant, l'homme est interrogé, afin que son impuissance lui devienne plus évidente. Nous sommes impuissants devant tout cet univers fantastique. Celui qui a grandi, dit Saint Grégoire, par d'immenses vertus, et qui ne voit plus d'homme au-dessus de sa tête, il faut que celui-là, afin qu'il évite l'orgueil, soit comparé à Dieu pour être écrasé sous sa comparaison. Mais oh, quelle puissante exaltation que cette humiliation qui tombe de si haut. En somme, il revient toujours à cela, hein. L'homme humilié découvre Dieu. L'homme humble se rend compte que tout vient de Dieu. Il parle de justice, de miséricorde, s'interrompt tout à coup par toutes sortes de digressions. Il écrit des choses absolument admirables sur le Joseph de l'Ancien Testament. Il écrit à un moment donné que le tabernacle, c'est le corps. Mais il n'est pas de chasteté sans douceur. Notre tabernacle doit être chaste. Même dans le mariage, ça ne veut pas dire une chasteté totale, mais une chasteté, une pureté du sentiment profond. Il n'est pas de chasteté sans douceur, dit Saint Grégoire. L'image d'un homme, c'est un autre homme, notre prochain, notre image, car il nous montre ce que nous sommes. La visite corporelle se fait avec les pieds, la visite spirituelle se fait avec le cœur. L'homme visite son image quand il voit quelqu'un d'autre. L'homme visite son image quand, porté sur les ailes de la tendresse, il se considère dans autrui et tire des réflexions qu'il fait sur lui-même la force de secourir le faible. Vous direz, c'est un peu compliqué, mais c'est très beau. Hein? Il écrit plus loin sur la prière. La vraie prière n'est pas dans le son de la voix, mais dans la pensée du cœur. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont nos désirs qui font, auprès des oreilles secrètes de Dieu, la force de nos cris. Si nous demandons de bouche la vie éternelle sans la désirer du fond du cœur, notre cri est un silence. Écoutez bien, ça c'est fantastique. Si, sans parler, nous la désirons du fond du cœur, notre silence est un cri. Il s'agit de désirer la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle si ce n'est que la vie même de Dieu en nous, qui nous embrase et nous rend heureux, et nous pacifie et nous libère, et fait de nous des saints qui sont capables d'être heureux. Comme une dame que j'ai bien connue, qui est décédée de cancer il y a quelques jours à peine. Une de mes amies me disait qu'en la visitant, elle voyait chez elle, jusqu'au dernier moment, une sérénité, une force, une foi, une présence de Dieu, qui est bouleversante. Je vous rappelle ces prières de Saint Grégoire. La vraie prière n'est pas dans le son de la voix, mais dans la pensée du cœur. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont nos désirs qui font, auprès des oreilles secrètes de Dieu, la force de nos cris. Si nous demandons de bouche la vie éternelle, sans la désirer du fond du cœur, eh bien notre cri est un silence. Et si, sans parler, nous la désirons du fond du cœur, notre silence est un cri. Saint Grégoire le Grand, ce pape immense, a tout trouvé dans l'Écriture, dans la Bible. Elle est pour lui, dit-il, la tour d'où pendent 1000 boucliers. Ce sont des expressions curieuses. Hein? La tour d'où pendent 1000 boucliers. C'est presque surréaliste comme vision. Il puise dans la Bible les plus hautes pensées sur la charité, qui est au cœur de la vie chrétienne. Il recommande à l'homme et à la femme de s'aimer lui-même et d'avoir pitié de son âme et d'aimer son prochain comme lui-même. Et comme il doit l'indignation à ses propres fautes, il la doit aux fautes de son prochain aussi. On doit s'indigner, dit-il, des fautes de son prochain. Il dit, s'il ne s'indigne pas contre son frère coupable, c'est qu'il ne l'aime pas. Cette indignation, c'est très dangereux, hein? Très difficile à exercer. Mais ça doit s'exercer surtout chez les gens qui sont en autorité. La colère de l'amour, dit-il, qui a été tant célébré, pour ceux qui ont lu Joseph de Maistre, il en parle, la colère de l'amour, Saint Grégoire la réclamait. De même, écrit-il, nous pouvons, sans aucune faute, nous réjouir de la ruine de notre ennemi et nous affliger de son triomphe. Si sa chute fait du bien, nous devons nous en réjouir, hein, comme la, mettons, la chute de Hitler. Eh bien, nous pouvons nous en réjouir. Ou la chute d'un grand trafiquant de drogue, qui tue souvent des tas de gens et ruine la vie de dizaines de milliers de personnes. Il ajoute, si son triomphe est le triomphe de l'injustice, nous devons le déplorer. Dans ces cas, notre joie ou notre tristesse ne va pas droit à lui, mais se déploie autour de lui. Voilà le secret. Il faut examiner avec soin quel est alors le point de départ de notre sentiment. Donc, il ne faut pas en vouloir au pécheur, mais en vouloir à son péché. Ne pas en vouloir au trafiquant de drogue en tant que tel, mais à son trafic. Très souvent même, toutes sortes de crimes énormes qu'on lit dans la Bible, et ça se colore pour lui, pour le pape Saint Grégoire le Grand, d'une couleur surprenante et inattendue. Il y voit, lui, la figure détournée des choses les plus divines. Saint Grégoire est d'une telle hardiesse dans ses aperçus, dans ses interprétations, dans ses contemplations, qu'on oserait à peine aujourd'hui traduire tout ce qu'il osait dire. On craint d'étonner le lecteur, dit Ernest Hello. Car la timidité est un des fléaux qui frappe une époque corrompue. L'extrême liberté du langage de Saint Grégoire le Grand tient à l'innocence de ses pensées. C'était un homme pur, hein? Et sa grande hardiesse vient de sa pureté. Tout est pur à ceux qui sont purs. Et non seulement il ose tout dire, mais dans un sermon, il remplit ses auditeurs des lumières qu'il croit leur devoir. Hein? C'est un prédicateur qui fait vibrer les foules. Très souvent, dit-il, quand je suis seul, je lis l'Écriture sainte et je ne la comprends pas. J'arrive au milieu de vous, mes frères, et tout à coup je comprends, quand il vient prêcher. Cette intelligence soudaine, ajoute Saint Grégoire, m'en fait désirer une autre. Je voudrais savoir quels sont ceux par les mérites de qui l'intelligence me vient tout à coup, parce qu'il lui attribue son intelligence d'Écriture quand il parle, au mérite des gens qui sont devant lui. Elle m'est donnée par ceux en présence de qui elle m'est donnée. Aussi, par la grâce de Dieu, pendant que l'intelligence grandit en moi, bien l'orgueil baisse. parce qu'il se rend compte que les talents qu'il a et les dons qu'il a lui viennent des prières de ceux qui prient pour lui. Et il ajoute, car c'est au milieu de vous que j'apprends ce que je vous enseigne. Et c'est très beau. Il dit, je vais vous l'avouer. C'est le pape qui parle. Je vais vous l'avouer, mes enfants. La plupart du temps, j'entends à mon oreille ce que je vous dis dans le moment où je vous le dis. Et je ne fais que répéter. Quand je ne comprends pas Ézéchiel, alors je me reconnais. C'est bien moi. Je suis un aveugle. Quand je comprends, voilà le don de Dieu qui me vient à cause de vous. Je trouve ça admirable de la part d'un pape, un grand pape. Où étais-tu? Tu ne pensais pas à moi? Ne t'attribue donc pas le mérite de ma grâce, puisque c'est moi qui t'ai prévenu. Dieu parle comme ça. L'abîme, c'est nous-mêmes où Dieu se promène. C'est notre cœur qui ne peut pas se comprendre, mais qui est à lui-même une nuit très profonde. Notre cœur, c'est une nuit profonde. Quand l'homme se repent après de grands crimes, c'est qu'alors Dieu se promène dans les derniers abîmes. Il apaise les flots invisibles qui soulevaient l'océan profond du cœur. Il écrit des choses extraordinaires. Il écrit, « Celui qui apaise les mouvements désordonnés de son âme par le souvenir des jugements de Dieu, contemple la promenade du Seigneur au fond de lui. » Dieu se promène au fond de nous, hein? C'est beau. Hein? « Connais-tu la route du tonnerre qui gronde ?» Souvent, dit Saint Grégoire, c'est le Dieu incarné qui est signifié par le tonnerre. Il sort pour se faire entendre à nous, du fond des prophéties, comme le tonnerre du choc des nuages. C'est pourquoi les saints apôtres, fils de sa grâce, ont été appelés fils du tonnerre. Alors le prédicateur, qui lui aussi est le tonnerre, peut bien faire retentir ses paroles à vos oreilles, mais ne peut pas ouvrir vos cœurs. Si le Dieu Tout-Puissant ne lui en livre pas l'entrée, sa parole retentit en vain. En somme, c'est Dieu qui parle au fond de notre cœur quand un prédicateur nous parle. Durant les 14 ans de son pontificat, Saint Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, s'est dépensé jusqu'à limite, à la limite de ses forces. Malgré une santé, je vous l'ai dit au tout début, qui avait été altéré, même augmenté par des macérations, puis des jeûnes. Il a dû faire face au surmenage, des soucis continuels. Il a lutté sur tous les fronts. Il a prodigué tout son amour aux humbles comme aux puissants. Et après avoir passé, alité les 4 dernières années de son règne, il est mort le 12 mars 604. Mais on célèbre aujourd'hui son couronnement comme pape le 3 septembre. Saint Grégoire le Grand, pape admirable, pape que l'on peut aimer du fond de notre cœur et invoquer, pour que dans nos églises, le chant grégorien revienne le plus possible, bien chanté, et que le grégorien soit de plus en plus aimé, ce chant qu'en grande partie, dit-on, nous lui devons.